Chapitre 2, versets 8 à 20. Luc, chapitre 2, versets 8 à 20. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Alors on va prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous nous apprêtons à étudier un passage, celui de ta naissance. Et le meilleur d'entre nous, le plus spirituel d'entre nous, Seigneur, sans doute ne comprend pas toute la profondeur, toute la richesse de ce passage. Seigneur, ouvre-nous l'intelligence pour que nous comprenions ce qu'est l'événement glorieux qui se passait. Et Seigneur, en étudiant ces choses, nous verrons jusqu'à quel point nous avons été bénis par la naissance de Christ, qui était le Christ, le Messie. Alors Seigneur, bénis-nous aujourd'hui, que ton esprit nous guide, nous élimine l'intelligence et nous fasse apprendre aussi ce qu'il y a à appliquer dans nos vies pour y obéir dans ce passage. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors, j'ai intitulé le passage d'aujourd'hui, l'étude d'aujourd'hui, « La naissance de Jésus, un insondable émerveillement ». Quand on parle de quelque chose d'insondable, ça veut dire qu'on n'est pas capable d'aller au plus profond. Il n'y a pas de bout. Insondable, c'est par définition, on ne peut pas le sonder jusque dans ses profondeurs infinies. Alors, émerveillement, on sait que quand on s'émerveille devant quelque chose, c'est que si on fait « Ah! » On s'émerveille. Et quand je dis un insondable émerveillement, je pèse mes mots, la naissance de Christ, on peut la lire, comme on vient de faire, et on peut la lire et en demeurant un petit peu que nos émotions ne sont pas tellement touchées. On trouve ça intéressant. Mais parfois, si on veut aller un petit peu plus en profondeur dans le sens dans un texte, il faut non seulement étudier le passage lui-même, mais il faut le mettre en relation avec la signification des mots dans d'autres passages des Écritures. Ce qu'on va essayer de faire ce matin, c'est définitivement d'essayer que nos cœurs s'élèvent et qu'on devienne dans cet état d'émerveillement que le texte nous enseigne. Et si on n'est pas dans un état d'émerveillement, c'est peut-être parce qu'on l'a passé médité et compris son sens. Alors, la naissance de Jésus-Christ est sans aucun doute l'un des plus grands événements de toute l'histoire de l'humanité. Des siècles avant la naissance de Jésus, la Bible cite les paroles des prophètes d'Israël qui parlent de sa venue. On sait que dans l'Ancien Testament, si on ferait une étude à partir de la Genèse, aller jusqu'à la venue de Jésus-Christ, il y avait pas presque, tous les prophètes avaient parlé de la venue future du Messie. Alors, l'Ancien Testament C'est tout un livre qui nous parle de la venue de Christ, le Messie attendu, tant attendu par le peuple d'Israël. Et quand l'événement arrive, ça se trouve à être un point dans l'histoire où c'est un point séparateur de l'histoire. Pourquoi aujourd'hui on dit on est le 23 décembre 2012? C'est parce qu'on a commencé à compter le temps à partir de la naissance de Christ. Imaginez-vous, pour qu'un être humain, qui était à la fois homme et Dieu, arrive dans le temps, dans l'espace, et qu'on commence à compter le temps à cause de sa personne, il ne faut pas que ce soit une personne ordinaire. Il fallait que ce soit une personne extraordinaire. Alors, l'Ancien Testament rédigé sur une période de 15 siècles. Si on regarde l'Ancien Testament, 1500 ans, ça l'a pris, à partir de la Genèse, aller jusqu'à la Malachie. Ça a été écrit par une quarantaine d'auteurs différents. Ça contient plus de 300 prophéties sur la venue de Jésus. Si on prenait notre livre, là, pour l'étudier en détail, on verrait qu'à plus de 300 endroits dans l'Ancien Testament, on parlait de la venue future du Messie de Jésus, le Christ. 300 prophéties qui se sont tous accomplies ou qui vont s'accomplir éventuellement. Chaque détail qui était prophétisé s'est réalisé, y compris sa naissance miraculeuse, sa vie sans péché, ses nombreux miracles, sa mort et sa résurrection. La vie de Jésus, ses miracles, les paroles qu'il a prononcées, sa mort sur la croix, sa résurrection, son ascension au ciel, tout indique que Jésus n'était pas qu'un simple homme, qu'il était beaucoup plus qu'un homme. Jésus, rappelons-nous, a dit dans Jean 10, verset 30, c'était pas une petite chose qu'il disait, là. Il disait « Moi et le Père, nous sommes un ». Ce qui voulait dire que Jésus, dans son incarnation, était à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. Et il a dit aussi « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Et il a dit aussi dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Personne ne peut connaître le salut de son âme sans passer par la personne de Jésus-Christ. Toute autre religion, aujourd'hui on a peur d'affirmer ces choses-là, parce qu'il y a comme l'écuménisme, il y a comme un mouvement que toutes les religions sont bonnes, que toutes les religions mènent à Dieu. C'est pas ça que la Bible enseigne. Alors on a le choix, où on croit ce que les hommes disent, ou on croit ce que Dieu dit. Et Dieu dit que qu'il n'y a pas de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ. Alors la naissance de Jésus, c'est le fait le plus étonnant, le plus glorieux et le plus merveilleux de toute l'histoire des hommes. Il nous remplit littéralement d'émerveillement et nous conduit invariablement vers l'adoration et la louange la plus exaltée. C'est ce qu'on va voir dans le texte ce matin, que quand il se produit une chose de cette ampleur-là, Dieu se révèle. Et quand vous regardez à qui s'est révélé, des bergers, à l'époque, les bergers, c'était la classe sociale la plus basse, qui était méprisée par tous. Et le Seigneur, dans sa bonté, permet qu'un ange vienne leur révéler la naissance du Messie tant attendu. Voyez-vous, il n'est pas allé voir les rois, il n'est pas allé voir les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, les esséniens et tous ceux qui, à l'époque, avaient été censés avoir gardé une connaissance sur qui Christ était. Il vient se révéler aux personnes les plus simples, les plus basses de la société. Alors, ce qui est de plus haut vient se révéler ce qui est de plus bas. Quelle image! Implorons le Seigneur de nous ouvrir l'intelligence à sa contemplation. Alors, ce qu'on va faire, on va aller étudier le passage, on va le diviser en trois, dans la naissance de Jésus révélée, versets 8 à 12. La naissance de Jésus révérée, versets 13 et 14, on expliquera tantôt ce que ça veut dire révérée, et la naissance de Jésus réalisée, versets 15 à 20. Quand vous regardez à partir de versets 8 et 9, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Imaginez-vous, vous êtes des bergers. Vous êtes la nuit, puis il fait froid. Puis tout d'un coup, soudainement, il y a un être qui vous apparaît. Et tous les passages des Écritures qui nous disent que quand un ange est apparu aux hommes, ça l'a toujours provoqué la même chose, une grande frayeur. Imaginez-vous, le soir, vous êtes dans le champ, gardez des moutons, puis tout d'un coup, vous voyez un ange apparaître. Et ça dit pas seulement l'ange, ça dit aussi la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Faut comprendre c'est quoi la gloire du Seigneur. Si on prend le passage et on lit rapidement, on manque un peu le bateau parce que l'ange, déjà en lui-même, était terrifiant. Mais ça dit aussi que la gloire du Seigneur... Qu'est-ce que c'est la gloire du Seigneur? La gloire du Seigneur, c'est la manifestation simultanée de l'ensemble des attributs de Dieu. On les verra tout à l'heure, on va toutes les énumérer. Et imaginez-vous pour des personnes dans la nuit qui voient apparaître une lumière comme ça, et ils voient un ange qui vient leur apparaître. Il y a quelque chose qui se passe là, d'extraordinaire pour ces personnes-là. Alors la question qu'on pourrait se poser, pourquoi le Seigneur a-t-il choisi de se révéler à des bergers? On pourrait apporter plusieurs réponses. Premièrement, quand on regarde dans les Écritures, le Seigneur Jésus lui-même s'appelle le bon berger. Jean 10, verset 11. Le Seigneur lui-même, Jésus, il dit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. » Alors, il y a aussi d'autres personnages dans l'Ancien Testament qui étaient des bergers et que le Seigneur a utilisé abondamment dans le service, dans son service. Alors, prenons des exemples. Abel était un berger. Jacob était un berger. Moïse était un berger. David était un berger. Et d'autres. Alors, pourquoi il utilise cette image-là? C'est pour montrer que, dans le fond, le Seigneur se révèle au simple. Et l'image du berger, c'est toujours rattaché à quelque part, à l'image de Jésus-Christ qui dit « Je suis le bon berger ». Pourquoi on s'appelle des brebis du Seigneur, nous? On est des brebis. Quelque part, ça prend un berger pour s'occuper des brebis, pour les diriger, les guider, les nourrir, quand ils sont malades, les guérir. Alors, c'était des personnes ayant le plus bas statut social de l'époque, les bergers. Il est remarquable que Dieu ne se soit pas révélé aux leaders religieux de son peuple. Ni les pharisiens, ni les sadducéens, qui étaient froids et secs comme la poussière. Ni les esséniens, qui étaient ascétiques et séparatistes. Ascétiques, ça pense, ils pensaient se rapprocher de Dieu en jeûnant, des choses comme ça. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, là. Mais eux, c'était toute leur concentration était placée sur trouver le Christ, trouver le Seigneur, trouver, se rapprocher de Dieu par l'ascétisme et en se séparant des autres, en se pensant supérieur aux autres. Alors, c'était les Esséniens. Ce n'est pas révélé à eux. Et ce n'est pas révélé non plus aux Hérodiens. Les Hérodiens, c'était les personnes de l'époque qui mêlaient la religion de la politique. Hérode, ça le dit, ça vient d'Hérode, ça vient d'Hérodiens. Alors, il y avait des Juifs à l'époque qui s'infiltraient, cherchaient à exploiter la politique dans un but religieux. Ce n'est pas révélé à eux non plus. Et ce n'est pas révélé non plus aux puissants. Il y avait des rois à l'époque. Ce n'est pas révélé à eux. Voyez-vous, le Seigneur, l'être le plus extraordinaire, le plus glorieux, le plus majestueux, on pourrait mettre une liste très longue, vient se révéler au plus simple. L'Éternel a choisi de se révéler à des hommes simples. Et la chose à remarquer, c'est quand il se révèle à eux? Alors qu'ils sont en train d'accomplir leur devoir de tous les jours. Il y a une leçon pour nous aussi. Quand on est en train d'accomplir notre devoir de tous les jours, qu'on est dans les voies de Dieu, on peut adorer Dieu, même dans nos devoirs quotidiens les plus simples. Alors le Seigneur s'est révélé à des personnes qui s'acquittaient de leurs devoirs quotidiens. Le Seigneur a donc choisi ce qu'il y a de plus humble et de plus bas parmi les hommes, mais il a choisi d'utiliser un ange et ce qu'il y a de plus haut dans le ciel pour annoncer la naissance de Jésus. Beaucoup croient que c'était l'ange Gabriel. Quand on regarde dans l'ensemble des Écritures, l'ange Gabriel est apparu à Daniel. Quand il apparaît, ça produit toujours la même affaire. Ça produit, les hommes tombent à genoux, sont effrayés parce qu'ils voient quelque chose qu'ils ne sont pas habitués de voir. Alors, les bergers, ici, ont connu une expérience des plus exaltantes. La gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Juste pour expliquer un peu la gloire du Seigneur, la gloire du Seigneur, c'est le rayonnement qui se dégage de sa personne. L'éclat insoutenable de sa majesté. Les Écritures nous enseignent que pour nous, ça serait absolument impossible de soutenir la gloire de Dieu. Si on était placé devant la gloire de Dieu dans notre corps mortel actuel, on mourrait littéralement. C'est quelque chose qui dépasse notre capacité. Alors, c'est un éclat insoutenable. Dieu, aucun être humain n'a vu Dieu parce que il faut absolument que tu sois mort et que tu sois un chrétien pour pouvoir voir Dieu. Mais c'est juste après. Mais voir dans sa totalité, dans sa globalité, personne n'a jamais vu Dieu. Et c'est l'éclat insoutenable de sa majesté et de toutes ses perfections infinies. Quand on prend les attributs de Dieu un par un, insondable, ça veut dire que tu n'es pas capable d'aller jusqu'au bout. Même si tu étudierais, disons, juste la bonté de Dieu, l'éternité ne suffira pas pour te faire découvrir la bonté de Dieu de façon exhaustive. Ça veut dire que tu ne pourras jamais aller au bout. Ça, c'est un attribut. La gloire de Dieu, c'est l'expression simultanée de tous ses attributs en même temps. L'expérience qu'ils ont vécue, des fois, on lit le texte rapidement, on ne se rend pas compte de ce qu'ils ont vu. C'est quelque chose d'extraordinaire. On va en nommer quelques-uns, les attributs de Dieu. L'omniprésence. Dieu est présent partout en même temps. Il est ici, il est à Québec, il est à Montréal, il est à Toronto, il est à Chicago, il est à Paris, il est à New York. Et non seulement sur la terre, mais dans l'univers entier. Et quand on regarde l'ensemble de l'univers, quand on regarde certaines notions d'astronomie, par exemple, on a vu récemment, les chiffres, les galaxies, c'est par des millions de galaxies, et sont divisées, sont loin l'une de l'autre, des millions d'années-lumière. Il est présent simultanément dans tous ces endroits-là, en même temps, et pleinement. Après ça, on prend un autre. L'omnipotence. L'omnipotence, ça veut dire que Dieu est puissant à un point où il n'y a rien qu'il ne soit pas capable de faire. Disons qu'il déciderait, je prends l'univers dans sa grandeur, là, des milliards de tonnes, puis dirais, je le roule comme un manteau. C'est ça que les Écritures disent. Il est capable de prendre ça et il serait capable de le détruire dans un instant, comme il était capable de le créer en un instant. Alors, l'omnipotence. Alors, sûrement que dans cette révélation qu'ils ont eue, les bergers, ils ont, à quelque part, perçu une part. Tu ne peux pas la percevoir pleinement. Parce que l'éternité ne suffira pas pour le percevoir pleinement. Voyez-vous, on s'imagine pas jusqu'à quel point Dieu est grand. Il est grand d'une façon inimaginable, insondable. L'immuabilité. L'immuabilité, ça veut dire, c'est son attribut qui fait en sorte qu'il ne change pas. Tout ce qu'il est, et tout ce qu'il a fait, et tout ce qu'il a décrété, il n'a pas besoin de le changer parce que c'est parfait. Autre attribut, la sainteté. On dit dans Ésaïe 6, saints, les anges les plus glorieux, les anges sont les plus proches de Dieu. Quand ils approchent de l'Éternel, ils se crient l'un à l'autre, saints, 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 l'Éternel des armées. C'est tellement, ça les aveugle, ils ne sont même pas capables de le regarder, ils se mettent les Écritures disent qu'ils se ferment les yeux, ils se couvrent les pieds, ils sont éblouis par la sainteté de Dieu. Pour quand on parle de la sainteté de Dieu, on ne peut pas comparer quelque sainteté humaine à la sainteté de Dieu. Sainteté, ça veut dire séparé. Quand un être humain se sépare du péché, il devient de plus en plus saint. Il s'éloigne du péché. Parce que, par définition, la sainteté, c'est la séparation. On se sépare du péché. Mais nous, peu importe jusqu'où on ira dans notre sanctification, on ne sera jamais parfaitement saint. Dieu est parfaitement saint. Et sa séparation n'est pas seulement avec le mal. Il n'a jamais conçu de mal, il n'a jamais dit de mal, il n'a jamais fait de mal. Mais ça veut dire aussi qu'il est complètement séparé de nous dans sa sainteté. Il est tellement saint que même le plus saint de la terre, disons que ça nous serait possible ce matin, là, que Dieu ferait venir l'homme le plus saint de la terre devant nous. Parce qu'il y aurait une vie exemplaire, il y aurait une vie... Et si tu compares cet homme dans sa sainteté à la sainteté de Dieu, Dieu dit qu'il est séparé, il est incomparable. Même l'homme le plus avancé spirituellement, qui est le plus saint, si tu le compares à Dieu, c'est comme un grain de poussière par rapport à l'univers. La sainteté de Dieu, c'est comme... On perd ça de vue aujourd'hui, et c'est fort probablement la raison pour laquelle on a tant de misère avec la notion de l'enfer. Parce que quand on offense Dieu, on offense cette personne-là qui est tellement parfaite qu'on n'a aucune idée jusqu'à quel point c'est parfait. Parce que l'éternité, nous on va aller au ciel parce qu'on est sauvés. Quand on est sauvé, on va aller au ciel. Et l'éternité, ça va être la découverte de la grandeur de Dieu. On va prendre l'éternité, ça va être juste ça, découvrir Dieu. Découvrir, on va découvrir, ça va faire 1000 ans qu'on découvre, on va découvrir encore. Puis au bout de 10 000 ans, on va découvrir encore. Puis au bout d'un million d'années, on va découvrir encore. On a inépuisable. C'est ça qu'il voyait, là. Aussi,
oups,
sa justice. La justice. Dieu ne fait jamais rien qui n'est pas correct face à ses créatures. Même si parfois ça peut paraître dur, Dieu est juste en tout temps. Sa bonté, la bonté de Dieu. Il y a des passages dans les livres des psaumes, « Voyez et sentez comment l'Éternel est bon. » Si depuis notre naissance, nous qui sommes sauvés, si il nous était donné de voir l'ensemble des choses que Dieu a fait, qui étaient des gestes de bonté envers nous, on tomberait littéralement à genoux, j'en suis convaincu. Il n'en fait beaucoup, mais le problème avec nous, c'est qu'on ne les voit pas. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas là. L'amour de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'amour de Dieu dans quelques dénominations que ce soit, au point que certaines dénominations mettent trop l'accent sur juste l'amour de Dieu. Dieu est bon, mais Dieu est juste, et Dieu est sévère aussi, que les Écritures nous disent. Amour, sagesse. Sagesse, qu'est-ce que ça veut dire, la sagesse, au point de vue de Dieu? Ça veut dire que peu importe ce que tu conçois, tu ne fais jamais d'erreur. On va prendre les meilleurs architectes du monde, on va leur dire, bâtissez-moi un édifice de 100 étages. Ils vont le faire. Quand on va avoir fini, on va rassembler les utilisateurs, on va dire, pensez-vous que ça répète mieux? Ils vont voir des défauts comme ça. Plein, ça va. Quand Dieu fait un plan, la sagesse, ça veut dire que tu ne te trompes jamais dans tes décisions, tu ne te trompes jamais dans tes décrets. La sagesse de Dieu est infinie. La grâce de Dieu. Ça, c'est une chose dont on pourrait en parler longtemps. La grâce de Dieu, ça veut dire faveur non méritée ou faveur déméritée. On mériterait l'inverse. Dieu vient nous chercher alors que nous sommes en rébellion contre lui. Et il vient nous chercher, il nous accorde sa grâce. Il nous ouvre l'intelligence, il nous régénère par le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, on se détourne de nos péchés, on se tourne vers lui. Et déjà sur la terre, on reçoit une multitude de bénédictions. Donc la régénération et tout ce qui s'ensuit, l'adoption et bien d'autres choses encore. La grâce de Dieu, c'est... Parce que nous, ce qu'on aurait mérité, c'est d'être plongé vivant dans le lac de feu pour l'éternité à cause des péchés qu'on a faits. Et lui vient nous chercher dans sa grâce et il nous accorde exactement l'inverse. Un jour, on va vivre dans l'éternité, on va vivre dans l'harmonie, dans la joie, dans le bonheur. Plus de mort, plus de larmes, plus rien qui va te faire de la peine. La grâce, la vérité, Jésus, le Père, Dieu, ne dit jamais de mensonge. Nous, on est tellement habitués dans le mensonge, on nage dans le mensonge. Juste à écouter la télévision, regarder les médias. Aujourd'hui, les gens mentent pour toutes sortes de raisons, pour frauder, pour toutes sortes de choses. Et on est tellement environnés de tout ça qu'il vient un temps. Mais que c'est bon de savoir qu'il y a au moins un endroit où il n'y a personne qui te ment. Les Écritures ne mentent pas. Dieu ne ment pas. Il ne ment jamais. Il n'a jamais menti. Il ne mentira jamais. Alors, il y avait sûrement une part de la vérité qu'il voyait. Il y avait la question de la vie. Jésus dit « Je suis la vie ». Tout ce qui est vivant, là, les choses devant lesquelles on s'émerveille, les fleurs, les lacs, les montagnes, les étoiles la nuit, et plein d'autres choses, la vie, il est la vie. Non seulement la vie physique, mais aussi la vie éternelle. La fidélité, Dieu est fidèle, au point où le nom de Jésus, lui, on dit de lui, son nom est fidèle. Quand on dit de quelqu'un fidèle, aujourd'hui c'est une autre affaire au point de vue de l'être humain, on est tellement infidèle, ça n'a aucun sens. Quand on regarde autour de nous, qu'est-ce qu'on voit? De l'infidélité. Mais Dieu, quand il dit quelque chose, il respecte sa parole, il se rend jusqu'au bout. La miséricorde, ça veut dire respecter la misère de ton cœur. Alors les versets 10 et 11, « Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Ce resplendissement de gloire n'a pour but que de préparer le chemin à une nouvelle extraordinaire, la naissance du Messie, depuis si longtemps prophétisée. » On va aller voir dans Ésaïe 61, versets 1 à 3. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier l'an de la bienveillance de l'Éternel et le jour de la vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui mènent deuil, pour annoncer à ceux de Sion qui mènent deuil que la magnificence leur sera donnée au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, le manteau de louange au lieu de l'esprit d'accablement, tellement qu'on les appellera les chaînes de la justice et la plante de l'Éternel pour s'y glorifier. » Voyez-vous, toutes ces choses-là avaient été prophétisées dans l'Ancien Testament. Maintenant, la nature de la bonne nouvelle. Si on dit que c'est une bonne nouvelle, il faudrait comprendre en quoi elle consiste. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le Messie est né. C'est pas que le Messie est promis ou le Messie va venir. C'était déjà une bonne nouvelle dans l'Ancien Testament. Là, il leur dit, celui que vous attendiez, tout à l'heure, on chantait dans le chant depuis 4000 ans. C'est long, 4000 ans. Ils l'ont attendu, mais Dieu avait dit qu'il viendrait. Il est venu au moment où lui le jugeait nécessaire. Alors, dans Michée 5.2, ça nous dit l'endroit, parce qu'on a vu tantôt qu'il était né à Bethléem. Bethléem veut dire la maison du pain. Alors, Michée 5.2 qui disait, « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda. » Bethléem, c'était un petit village, très très petit, qui était à 6 000 de distance de Jérusalem. Alors, 6 000, que le Sauveur, on aurait pu s'attendre à ce qu'il vienne au monde dans une ville comme Jérusalem. Il venait au monde dans un petit village à 6 000 de Jérusalem, et le nom est significatif, la maison du pain. Et ça disait dans la prophétie de Michée 5.2, « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, toutes les cités qu'il y avait à Juda étaient petites, c'est un petit village. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » Il annonçait la naissance du Messie dans un village bien identifié. Les Juifs de l'époque savaient que le Messie viendrait au monde à Bethléem, et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Donc, il est le Messie, pas le Messie à venir, pas le Messie prophétisé, pas le Messie venu. Il leur annonce ça. Autre chose qu'il leur dit, il est le Sauveur. C'est assez intéressant de noter que le nom Jésus veut dire « sauveur ». Jésus veut dire, c'est un nom qui vient de l'hébreu, Yehoshua. Yehoshua, ça veut dire « l'Éternel est salut ». Son nom veut dire « l'Éternel est salut ». Alors, il leur annonce la naissance que Jésus est sauveur. La délivrance amenée par Jésus, cependant, est de nature spirituelle et non temporelle. On a déjà mentionné au cours des leçons précédentes que les Juifs de l'époque attendaient un Messie temporel. Pour eux, leur compréhension des Écritures, c'était que Jésus viendrait et qu'il sortirait les Romains de leur pays, parce qu'ils étaient sous domination romaine. Et ils pensaient que Jésus serait leur roi, en ce sens qu'il sortirait. Mais Jésus n'avait jamais dit ça. L'Ancien Testament n'avait jamais dit que ce serait de nature temporelle, terrestre. C'était une délivrance de nature spirituelle. Alors, qu'est-ce qu'il fait comme sauveur, Jésus? Il nous délivre de la mort éternelle dans l'enfer. C'est ça, sauveur. Quand on dit de quelqu'un, il est sauvé, il est sauvé de quoi? Il faut que tu sois sauvé de quelque chose. Si quelqu'un est dans une bâtisse qui est en feu, et je rentre dans la bâtisse, je prends tout mon courage, je vais chercher un enfant, je le sauve, et la femme va dire, « Ah, monsieur, je vous remercie, vous avez sauvé mon enfant. » Je l'ai sauvé de quoi? Il est sauvé de la mort. Dans des expériences humaines, on peut dire, sauvé de la mort physique. Mais Jésus est venu pour nous sauver de la mort éternelle. La mort éternelle, ça veut dire que si Jésus n'était pas venu, si tu décédais dans cet état de pécheur dans lequel nous sommes tous, nous irions tous invariablement passer l'éternité en enfer. Quand on apprend que quelqu'un vient nous délivrer de cet endroit-là, c'est pas le temps matin de rentrer en détail dans la doctrine de l'enfer, on pourrait le faire, mais il nous a délivrés de cet endroit-là. C'est quelque chose de tellement extraordinaire qu'il faudrait qu'on ait, que Dieu nous révèle encore plus qu'est-ce que c'est l'enfer pour comprendre c'est quoi en être délivré. Il leur apprend autre chose aussi. Il est le Sauveur, il leur dit aussi qu'il est le Christ. Le mot Christ, il veut dire quelque chose aussi. Le mot Christ veut dire « oint ». « Oint », ça veut dire, en anciennement, quand on voulait prendre quelqu'un et en faire un roi, prendre quelqu'un et en faire un souverain sacrificateur, ou prendre quelqu'un pour en faire un prophète, il fallait qu'on prenne de l'huile, c'était de l'huile physique, humaine, et ça faisait partie de la cérémonie d'intronisation, si vous voulez. C'était un symbole que le Saint-Esprit était pour se saisir de cette personne. C'est un symbole. Jésus est « oint ». Et on a parlé de trois personnages, les rois, les prophètes et les sacrificateurs étaient oints. Donc, tu ne pouvais pas le devenir si tu n'avais pas été oint. Et ça voulait représenter que l'Esprit prendrait possession de cette personne-là dans sa vie. Mais il n'y a jamais personne dans l'histoire, dans l'Ancien Testament, qui a eu les trois rôles en même temps. Roi, sacrificateur, prophète. Ou tu étais l'un ou tu étais l'autre, mais tu n'étais jamais les trois en même temps, ni même les deux en même temps. Alors Jésus, lui, on dit qu'il est oint. Il est oint de quelle façon? Est-ce que lui, quand il est venu sur la terre, il a été oint dans le sens qu'on a mis de l'huile sur lui? Oint dans le sens que l'huile représente le Saint-Esprit. Et Dieu a donné à son Fils, Jésus, il l'a oint d'une telle façon qu'il lui a donné l'Esprit sans mesure. Il était l'homme-Dieu et dans son aspect humain, Dieu l'a donné l'Esprit sans mesure. Alors, quand on dit de Jésus qu'il est le Christ, c'est le Messie. C'est le Messie dans ses trois offices. Vous allez souvent entendre ça. Roi, Jésus est le roi. Le roi des rois. Le prophète qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament, qui viendrait un jour. Le prophète, pas un prophète, là. U-N avec un petit U minuscule. Le prophète avec un L majuscule. Dieu lui-même qui parlerait un corps humain. Alors, il était le prophète annoncé dans l'Ancien Testament. Si vous reculez, disons, dans Deutéronome, chapitre 18, versets 15 à 18, ça dit, « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb le jour de l'Assemblée, quand tu disais « Que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit ce qu'ils ont dit, eh bien, je leur susciterai du milieu de leurs frères. » Jésus est acquis, un juif. Il a pris une personne du milieu des juifs et il en a fait le grand prophète. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Il leur dira tout ce que je vous ai commandé. Et si vous allez dans le livre du Nouveau Testament, vous allez voir comment les prophéties de l'Ancien Testament s'accomplissaient dans le Nouveau. Acte 3, versets 22 à 24. Moïse a dit, « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. » Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ce jour-là. Alors, dans le Nouveau Testament, on reconnaît que Jésus était le prophète promis dans l'Ancien Testament. On reconnaît que Jésus était ce prophète-là. Alors, Jean 6, 14, c'est Jean. Ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disait, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Il était aussi souverain sacrificateur. Il s'est offert lui-même. Il est le médiateur parfait, l'intercesseur parfait, le bénisseur parfait. Il accomplit à la perfection l'obéissance pénale et l'obéissance préceptive de façon substitutive et vicariale comme nouvel Adam et représentant des élus. OK, on commence. C'est un peu beaucoup. Il accomplit à la perfection l'obéissance pénale. Il accomplit à la perfection l'obéissance préceptive. On l'a déjà mentionné, je le répète encore, c'est tellement important de comprendre ça. L'obéissance préceptive, ça voulait dire que Dieu nous avait donné le décalogue, les 10 commandements, la loi. Il y a différents noms qui sont utilisés, les 10 paroles aussi. Et il voulait que pour pouvoir vivre en sa présence, chacun de nous ait accompli à la perfection la loi de Dieu, le décalogue. À la perfection, ça veut dire que tu n'as pas manqué à la loi, ni dans tes pensées, ni dans tes paroles, ni dans tes actions, ni par aucune omission. Aucune personne d'entre nous ne fait ça. On a tout manqué en pensée, en parole, en action, en omission. Pas juste des dizaines de fois, des milliers de fois. Peut-être même des centaines de milliers de fois. Alors, qu'est-ce que cela nous méritait? Dépendamment de notre degré de désobéissance, nous méritait d'être plongés vivants dans le lac de feu pour l'éternité. Et ça, c'est important de saisir ça. Même le plus petit de nos péchés, même s'il y avait une arrêt juste un, là, aurait été suffisant pour nous mettre dans cet endroit-là pour l'éternité. On a-tu une idée de la grandeur de la sainteté de Dieu pour que Dieu exige ça de nous? Il l'exige, mais s'il n'y a pas personne qui le fait à notre place, on est fait, comme on dit en québécois, on est fait à l'os, comme on dit. Parce qu'il faut que quelqu'un le fasse pour vivre en sa présence. Si on n'a pas ce degré d'obéissance-là mis sur notre compte, on ne vivra pas en sa présence. Donc, c'est ça l'obéissance préceptive. C'est que Jésus est venu comme notre représentant pour accomplir à notre place ce qui était nos exigences. C'est moi qui devais accomplir. C'est vous qui deviez accomplir. Est-ce que c'est vous qui accomplissez si vous croyez en Jésus? C'est pas nous, c'est Jésus qui accomplit à notre place. Ça, c'est le côté préceptif. Pour pouvoir vivre en sa présence, il faut l'avoir accompli à la perfection de la loi. Donc, on a deux choix. Si ce n'est pas nous qui le fait, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui l'ait fait à notre place. Et c'est ça le salut. C'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait à ta place. Et si tu le crois par la foi, Dieu le considère comme si tu l'avais fait toi-même. Et l'obéissance pénale, ça veut dire, tout à l'heure on a dit que le plus petit des péchés nous méritait d'être plongé vivant dans le lac de feu pour l'éternité. Imaginez-vous l'addition de vos péchés qui vous mériterait une punition X et que l'éternité elle-même n'aurait pas suffi pour contenter la colère de Dieu. Vous auriez demeuré là pour l'éternité, il n'aurait jamais été content pour que vous en sortiez tellement c'est grave le péché. Aujourd'hui, on prend le péché et on le réduit à des choses pas graves, mais c'est tellement grave le péché. Il faudrait revenir peut-être à une série sur le péché, c'est important. Et là, il nous dit que cet aspect-là, aussi Christ le fait à notre place. Donc, il a accepté de prendre sur son dos la punition qui nous était due et d'en subir l'équivalent sur la croix en termes de souffrance et de douleur et de le prendre à ta place. Il a fait les deux. Quand on parle de Jésus, qui est le sacrificateur parfait, il faut comprendre qu'il a fait ça à ta place. C'est ça qu'il venait leur annoncer. Le Messie qui était prophétisé, qui était promis, est maintenant venu. Il est là. Mais ceux de l'Ancien Testament qui croyaient au Messie à venir, c'était bon pour eux autres aussi, là. Parce qu'ils croyaient en quelque chose à venir. Mais là, les bergers se font dire, « Celui que vous attendiez depuis 4000 ans, là, allez le voir, il est arrivé. » Alors, il est le roi parfait aussi. Son règne est de nature spirituelle et non de nature temporelle et militaire. Luc 19, verset 38, il disait, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Jean 18, verset 36, Jésus disait, « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Apocalypse 19, verset 16, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Jésus est le roi, avec un R majuscule, de tous les rois de la terre. Autrement dit, tous les gouvernements de cette terre lui doivent obéissance. Il est le roi des rois. Alors, ce qu'il vient leur annoncer ici, c'est qu'il est le Messie, il est le Sauveur, il est le Christ, il est le parfait intercesseur, il est le roi parfait. Alors, par sa venue, Jésus venait accomplir tout ce qu'on a... Tu sais, on a parlé des types et des antitypes la semaine passée. Les types, c'est des choses de l'Ancien Testament qui contiennent une promesse divine et on rentrera pas là-dedans en détail, mais on a dit que l'antitype, c'était Jésus. Toutes les choses qui parlaient, qui pointaient vers Christ, quand il est arrivé, il y avait une grosse partie de ce qui avait été promis, de ce qui avait été prophétisé, qui était accompli. C'était d'une importance vraiment très grande qu'ils comprennent ça. Donc, Jésus, l'antitype, était l'accomplissement parfait de ce qui avait été prophétisé. Il amenait la lumière, la vie, le bonheur et la gloire éternelle. Verset 12. Il faut comprendre aussi que toutes les promesses de l'Ancien Testament, c'est écrit. C'est ça qui est merveilleux avec la Bible. C'est écrit. C'était écrit. Scripturairement, Luc 2, verset 12, « Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté, couché dans une crèche. » Si vous allez dans Ésaïe, chapitre 7, verset 14, ça dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, on parlait de Marie dans le contexte, elle enfantera un fils. » Et elle lui donnera le nom de Emmanuel. Et vous souvenez-vous qu'est-ce que ça veut dire Emmanuel? Quand Dieu avec nous est en train de prophétiser qu'il y a une femme qui éventuellement donnerait naissance à un homme qui serait Dieu avec les hommes. L'homme-Dieu, Jésus. Alors c'était prophétisé qu'il viendrait sous la forme d'un bébé, qui naîtrait comme un homme, comme n'importe quel homme est venu au monde. Et dans Matthieu 1, 23, on a la confirmation de ce que ça veut dire Emmanuel. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Dans ce petit enfant, le comble de la fragilité, y a-t-il de quoi plus fragile qu'un bébé? On sait tous, quand on prend un bébé naissant, on a presque peur de le prendre, on a peur de le casser, tellement qu'on saisit que c'est fragile, on fait attention hein, dans la manière dont... Et Jésus est venu au monde fragile comme ça, mais dans cette fragilité, toute la gloire de l'Éternel était dans son corps, déjà de bébé. C'est quelque chose d'extraordinaire quand on fait réaliser que dans ce petit enfant-là, habitait Dieu pleinement, corporellement, pleinement. C'est extraordinaire. Et dans le verset 14, il dit, 14b, « Et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Alors, les élus sont les récipiendaires de cette paix de l'âme. Verset 15 à 20, On va voir que la réaction qu'ont eue les bergers, malgré cette peur, cette terreur qu'ils ont eue quand ils ont perçu toute cette lumière, tout ça, alors ils ont réagi sainement parce qu'ils ont obéi à ce qu'il leur disait. « Allez, vous trouverez un enfant mailloté. » Ils n'ont pas dit « Ben là, moi, je ne crie pas à ça. » Ils ont parti et ont fait ce qu'il y avait à faire. Alors, lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Cette expérience fantastique provoque une saine réaction chez les bergers, la foi et l'obéissance. Puis elle provoque la volonté courageuse et résolue de partager le trésor. Comme nous, quand on reçoit l'Éternel, l'Éternel vient nous chercher, est-ce qu'on garde ça pour nous autres? C'est tellement précieux, je ne le donne pas. Faut le donner aux autres, faut le partager. La foi des bergers est démontrée par la phrase suivante. Allons et voyons. Ils n'ont pas seulement à dire, OK, les bergers, c'est intéressant. Ce que dit l'ange, là, ben là, nous autres, on a une job, là. Il faut faire notre job, là. On dit, allons et voyons. Si on prend la peine de l'annoncer, c'est parce qu'il fallait que tu y ailles voir. Leur enthousiasme contagieux est illustré par leur désir de faire connaître et de diffuser largement la bonne nouvelle de ce glorieux trésor dans le pays. N'est-ce pas qu'il y a une application pour nous? Nous aussi, on l'a reçu, le précieux trésor. Alors, ne le mettons pas sous le boisseau. Verset 18. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Imaginez-vous les bergers qui commencent à aller raconter au monde, je ne sais pas, mais dans Jérusalem et même dans Bethléem, ce qui leur était arrivé. Ça devait provoquer toutes sortes de réactions, on ne peut pas croire. Mais ça dit que tous ceux qui les entendirent partager cette expérience-là furent dans l'étonnement. Hein? Puis ils devaient savoir que ce n'était pas des gens menteurs, c'est des gens simples, c'est pas des gens qui cherchent à manipuler. Là, c'est comme s'ils prenaient conscience d'un coup sec de ce qui leur arrivait. La diffusion de cette bonne nouvelle a provoqué un étonnement et un grand émerveillement. Versets 19 et 20, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Marie, elle s'était fait annoncer des choses par l'ange. Qu'il y aurait un enfant qui naîtrait d'elle, même si elle n'aurait pas connu un homme. Et là, elle voit l'enfant arriver, elle le met au monde. Imaginez-vous la quantité de choses qu'elle pouvait avoir à méditer dans son cœur. Ça nous dit bien, elle gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Elle devait tout penser, les événements, l'enchaînement. Cet enfant-là est spécial, il y a quelque chose. Probablement que Marie, ça lui a pris beaucoup de temps avant de saisir à qui elle avait donné au monde. Elle avait mis un enfant au monde, parle avec le Saint-Esprit. Mais c'est comme, pour elle, ça a dû prendre pas mal de temps avant qu'elle saisisse vraiment qui Jésus était. Et ça dit dans le verset 20, « Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant Dieu et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient vu et entendu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. » Ce trésor est d'une telle valeur et d'une telle profondeur qu'une méditation attentive est nécessaire et bienfaisante. Un trésor, ça doit être gardé et d'être évalué à sa juste valeur. L'éternité ne suffira pas pour en découvrir toute la richesse et toute la profondeur. L'événement qui se produisait là, que le Seigneur, dans sa grâce, a voulu faire comprendre à des gens simples comme et il se produisait des choses extraordinaires. Et il y a un passage. Ah oui, ce que je voulais retourner aussi dans le verset 14. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant : Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre aux hommes qui l'agréent. Imaginez-vous déjà l'ange, déjà la gloire de Dieu qui resplendissait. Et c'était pas tout. Imaginez-vous, là, qu'on pourrait dire le spectacle qui leur a été donné. Ça dit toute l'armée, une multitude de l'armée céleste. Ça ne dit pas toute l'armée, mais une multitude de l'armée céleste. Donc, c'est une multitude d'anges qui se sont mis à chanter et qui se sont mis à louer Dieu de façon simultanée. Imaginez-vous, dans la nuit, apparaît un ange, apparaît la gloire de Dieu qui se manifeste, et en même temps, vous entendez une chorale de je ne sais pas combien, mais quand on parle d'une multitude, c'était pas un peu. Ils ont entendu ces choses-là. C'était des chants célestes, des louanges célestes. Que des personnes connaissent une telle expérience, là, ces bergers-là, ils ont dû être frappés, ils ont dû être marqués pour le reste de leur vie. Ils se produisaient des choses extraordinaires. Ce même trésor ne peut que provoquer des louanges et les bergers ne s'en privèrent pas. Ils glorifièrent Dieu de cet événement si puissant et si libérateur. Ce même trésor leur prouva une fois de plus l'infinie solidité des Saintes Écritures. Tout est promis, annoncé et prophétisé. Elle va s'accomplir ou s'accomplira. Dieu dit toujours l'absolue vérité. Tout ce qu'ils avaient vu et entendu était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Dans le dernier verset, verset 20. Donc, ce qui leur avait été annoncé par l'ange, mais aussi ces gens-là avaient une connaissance des Écritures. Pourquoi c'est à Bethléem? Parce que c'était dit dans Michée. Tout à l'heure, on parlait de 300 prophéties. Si on prenait les 300 prophéties, on les mettait une en arrière de l'autre, on regarderait de quelle façon Christ a accompli la prophétie. Les choses commençaient à s'accomplir devant leurs yeux, et pas des choses ordinaires non plus. Quelles applications on peut tirer du texte? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce texte-là ce matin? Si je n'ai pas réussi à vous emmener un petit peu à l'émerveillement, j'ai manqué mon coup, mais j'espère que j'ai réussi un petit peu. Parce que moi, j'ai passé 2 jours à préparer le texte et j'ai été abondamment béni. Je lisais ça et parfois, je me rends compte que parfois, on lit les Écritures avec une telle rapidité. On ne prend pas le temps d'aller voir la signification des mots. On ne prend pas le temps de regarder qu'est-ce qui est dit dans le texte. Comme ça, on dit « la gloire de Dieu le rappelle ». La gloire de Dieu, c'est quoi ça? Faut quelque part s'arrêter et voir c'est quoi ça signifie. Sans ça, on perd ce côté émerveillement-là. Alors, la première application, sachons apprécier et reconnaître ce que la naissance de Christ nous a apporté. La délivrance du péché et de l'enfer, la paix de l'âme, d'innombrables bénédictions sur cette terre et la vie éternelle dans le ciel. Si parmi nous il y a des personnes qui n'ont pas encore reçu la grâce de la foi en Jésus-Christ et de la repentance pour le salut, nous vous supplions d'être réconciliés avec Dieu et d'implorer sa miséricorde. Deuxième application, on se devrait d'imiter les bergers. Soyons dans l'allégresse et chantons ses louanges. L'allégresse, c'est un mot aussi qu'on utilise et qu'on ne se souvient pas nécessairement ce que ça veut dire. Allégresse, ça veut dire littéralement danser de joie. L'allégresse, c'est des transports. La joie devient tellement intense là, que tu as juste le goût de sauter et crier puis de chanter. Tu sais, des fois, ça arrive qu'ils nous montrent des gens qui ont gagné à l'auto. Là. Ça produit un petit peu une petite allégresse humaine. Mais l'allégresse divine, là, c'est Dieu permet que tu allumes à un moment donné, que tu comprennes c'est quoi qui se passe, que tu comprennes c'est quoi que tu as reçu. Et l'allégresse, c'est pas un petit sentiment. Le Seigneur nous demande quand on médite le passage qui parle de sa naissance, qu'on soit dans cet état d'allégresse. Si on ne l'est pas, puis on le lit, puis qu'on ne prend pas la peine de méditer, c'est parce que, quelque part, on n'est pas rentré assez en profondeur dans le texte. Parce que quand on rentre en profondeur, puis qu'on se rend compte que ça nous donne la paix de l'âme, puis qu'on se rend compte que ça nous donne l'éternité avec Jésus dans le ciel, qu'on comprend que tous nos péchés sont pardonnés, qu'on comprend que les exigences de Dieu ont été accomplies à notre place par Jésus. Et là, je pourrais allonger la liste, là. C'est tellement grand le cadeau qu'il nous a fait, et il était le cadeau, tu sais, d'où vient la... l'habitude de se donner des cadeaux à Noël, c'est parce que les gens ont dû faire un lien quelque part entre le cadeau inestimable qui leur était donné en la personne de Jésus et ils avaient un peu le goût de partager leur joie avec les autres. Alors, soyons dans l'allégresse et chantons ces louanges. Célébrons ce glorieux événement. Faisons preuve de reconnaissance par une vie consacrée et sainte. Imitons les bergers. Partageons et faisons connaître Christ autour de nous hardiment et constamment. Vous remarquez que ça n'a pas dit. Il avait vu des choses extraordinaires. Allez raconter ça aux autres. Là. Tu risquais peut-être de te faire dire « Hey, là, l'exalté, là... Va-donc dire ça à d'autres, on n'est pas des cruches, d'autres là, on n'est pas des. T'sais, on n'est pas des valises, là. Pour ceux qui l'ont cru, pourquoi ils l'ont cru? C'est parce que ça correspondait à quelque chose qu'ils savaient dans l'Ancien Testament qui était réalisé. Ils ont compris que c'était réalisé par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui permet que tu comprennes ces choses-là. Alors, partageons. C'est sûr que les bergers, ils n'ont pas hésité, ils n'ont pas dit, ben là, si on va dire ça au monde, ils vont commencer à rire de nous autres. Ils m'ont dit, coudons, avoue, les hallucinations. Coudon, t'as bon ton stock? Ils l'ont cru, sont allés voir, ils l'ont vu et ils ont voulu partager. Ça nous dit dans le texte qu'ils ont voulu partager. Quand on reçoit la grâce de Dieu, quand on devient chrétien, on ne peut pas garder ça pour nous. Il faut le partager. C'est la plus belle chose qu'on ne peut pas partager à quelqu'un. Troisièmement, ne nous comportons pas comme les païens qui profitent de ce moment sacré pour s'adonner à des excès charnels de boire, de manger et de divertissements mondains remplis de péchés. Aujourd'hui, premièrement, d'après la grosse majorité des théologiens, Noël n'est pas arrivé le 25 décembre. Noël serait arrivé fin septembre, début d'octobre. Alors, l'Église catholique a comme établi cette tradition-là. Aujourd'hui, c'est reconnu presque mondialement. Noël, c'est le 25 décembre. On serait censé célébrer la nativité de Jésus. Mais franchement, regardez autour de vous, puis regardez si c'est ça qu'on fête aujourd'hui. Il y a bien des cadeaux autour des beaux arbres de Noël. Puis qu'est-ce qu'on en profite pour se saouler, pour se doper? Et pour toutes sortes d'autres plaisirs, d'excès, de toutes sortes. Et le Seigneur, là-dedans, n'est même pas présent. Regardez les films qu'il y a actuellement à la télévision. Les histoires de Père Noël, de Grincheux, de tout ce que tu voudras. Le nom de Jésus n'est même pas mentionné. Alors, on a pris Noël et on l'a profané. Et on en fait une fête païenne. Et nous, on est des chrétiens. Alors, si on va quelque part dans le temps des fêtes, mais il faut se comporter comme pour nous, ça veut dire quelque chose. Nous, ça allume une lumière, ça nous fait penser à la nativité de Jésus. Quoi que ça ne s'est pas fait le 25 décembre, ce n'est pas tellement important. C'est l'événement qu'on fête. Alors, il ne faut pas profiter de l'événement pour se comporter comme des païens qui voient cet événement-là comme profane et qui en font une occasion de péché. Pour nous, c'est une occasion d'allégresse et de joie et de comprendre ce que Christ a fait pour nous. Alors, honorons notre Sauveur, notre Roi et notre Seigneur. Que l'Éternel soit loué pour son don ineffable, son Fils Jésus-Christ. Amen. Don ineffable en passant. Ineffable, ça veut dire que les mots, peu importe le degré d'éloquence que tu as, ne seront jamais capables d'exprimer les réalités fantastiques et merveilleuses qu'il y en a rien de ça. Le mot ineffable, c'est comme ça dit dans les Écritures que Jésus est le don ineffable. Ça veut dire que peu importe le plus merveilleux prédicateur qu'il peut avoir dans le monde, quand il parle de Jésus, il est toujours bien en deçà de la vérité. Je me souviens, je finis là-dessus, d'avoir entendu un prédicateur américain qui était un grand prédicateur. Il est appelé tout partout aux États-Unis, il se promène tout partout. Et à un moment donné, il a partagé quelque chose avec un autre pasteur qu'il connaissait. Il dit, j'aimerais tellement ça que Dieu me donne une seule fois dans ma vie de parler de lui comme il serait convenable de lui parler. L'autre, il dit, oublie ça, tu l'auras jamais. Parce que, par définition, quelque chose qui est ineffable, quelque chose qui est insondable, tu ne seras jamais capable d'en parler avec toute la valeur que tu faudrait que tu en parles, toute la richesse faudrait que tu en parles, toute l'éloquence faudrait que tu en aies. Il dit, oublie ça. Il dit, bienvenue dans le club. Essaye d'en parler le mieux que tu peux. Lift them up, preacher, comme j'entendais. Élève-le le plus haut que tu peux. Mais même quand tu vas être rendu le plus haut que tu peux, tu es encore bien en deçà de la réalité et de la vérité. Alors que l'Éternel soit loué pour son don ineffable, son Fils Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Alors Seigneur, merci encore une fois d'avoir permis qu'on approfondisse un peu ce merveilleux passage. Et Seigneur, permets que par ton esprit, notre émerveillement soit élevé encore. Et que lorsqu'on relise ce passage, on y voit des choses qu'on n'avait pas vues la première fois. Et qu'ainsi, chaque fois qu'on étudie les Écritures, Seigneur, on s'émerveille. Parce que tout ce qui est dans les Écritures concerne Jésus-Christ. Et tout ce qui est dans les Écritures, Seigneur, est émerveillement. Permets qu'on atteigne ce niveau, parce que quand on l'atteint, on se met à aimer les Écritures avec beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de fidélité. On te demande ces choses en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.
Amen.